Voilà, il est 21h08, on va reprendre la deuxième partie de cette présentation. J'aimerais juste préciser au niveau des questions, certaines sont donc répondues oralement et puis quelques autres sont répondues par écrit parce que, comme on a pu le constater les dernières fois, il est impossible de répondre à toutes les questions dans le cadre de la session. Question-réponse à la fin de chaque exposé. Alors, peut-être que vous avez posé une question, puis vous n'avez pas entendu la réponse parce qu'on y a répondu par écrit. Et pour ça, il faut aller dans le chat QNR, et puis vous voyez sous l'onglet Répondu que certaines questions ont été répondues en direct, oralement donc, et puis d'autres ont été répondues par écrit. Et puis, je voulais vous faire cette précision. Parce que, pas que vous ayez l'impression qu'on n'a pas répondu à vos questions. Donc, ceci, cette petite précision étant faite, je vais laisser la parole à Sylvain pour la deuxième partie de l'exposé.
Voilà, alors on va continuer cette petite présentation en parlant d'un autre type de méthode pour interpréter la Bible. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai accentué au début tout à l'heure sur le fait d'avoir une vision globale de toute la Bible. Eh ben, on peut utiliser la méthode synthétique qui va permettre d'analyser en fait un livre dans son entier, sans se laisser enfermer dans les détails, et pour bien avoir le flot du discours, la pensée de l'auteur qui se met en place. Parce que bien souvent, on a l'habitude de lire soit un petit chapitre comme ça, voire un demi-chapitre et de méditer dessus. Alors ça peut être bien dans un deuxième temps, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, les lettres de Paul ou de Pierre ou de Jacques, c'était des lettres à la base. Et quand vous recevez une lettre de votre fiancée, par exemple, parce que moi, c'est les rares lettres que j'ai écrites, c'était à ma fiancée. Je ne sais pas si ça se fait encore. Mais en tout cas, quand vous avez une lettre d'amour, vous n'allez pas vous arrêter au bout de trois phrases. Vous avez envie de la continuer et d'aller au bout de la lettre. Et ben, dans la Bible, nous, on est là, des fois, on va dire, allez, c'est bon, j'ai eu mes cinq versets, c'est bon pour aujourd'hui. Alors que c'est un petit peu la lettre d'amour de Dieu pour nous. Et donc, on devrait avoir faim de lire jusqu'au bout et de sentir un peu l'émotion, l'idée qui passe là-dedans. Donc, on peut essayer de lire un livre d'une traite. Et après, de le lire même plusieurs fois, comme on relirait une lettre qu'on a beaucoup aimée. On va le lire plusieurs fois et on va s'en imprégner. Certains disent que quand on lit quelque chose à partir de sept fois, on commence à l'apprendre par cœur sans le faire exprès. Si on l'a lu sept fois d'affilée, ça commence à rentrer dans la mémoire. Et donc ça, c'est important pour pouvoir ruminer, faire appel à un verset de la parole quand on est dans un autre contexte qui nous revienne à l'esprit. Bah ça, c'est bien si on lit la Bible assidûment. Ensuite, une fois qu'on a lu le texte plusieurs fois ou d'une traite, eh bien, il faut noter ses impressions. À minima, les noter dans sa tête si on ne prend pas le temps de prendre un crayon papier, mais c'est encore mieux si on note ses impressions à l'écrit. Et on va essayer de voir l'atmosphère qui s'en dégage, comment l'auteur fait progresser son discours, le ton qu'il utilise, la tension qu'on peut trouver ou quoi. Donc voilà, tous ces éléments-là qui parlent en fait en eux-mêmes. On va encore utiliser les questions, les six fidèles serviteurs. Et si on a plus de temps, on peut faire quelque chose qui est très intéressant, c'est de résumer chaque paragraphe en une phrase, puis chaque groupe cohérent de paragraphes sur un thème donné en une phrase. Et puis après, ça permet de résumer le livre en entier en une phrase et de réaliser un plan du livre. Et ça, je vous conseille, j'ai fait quelques fois sur quelques livres avec plaisir. C'est assez gratifiant de réussir à sortir à la fin un plan comme celui que vous voyez là. C'est un exemple que j'ai fait sur deux Pierre. On trouve l'idée principale, le verset clé, et naturellement, en regroupant les paragraphes, ça va faire sortir des titres Alors, ça, on pourra avoir des plans qui soient un peu différents selon qui les fait, bien sûr, mais en tout cas, on trouve quand même toujours des choses qui reviennent. Et c'est très parlant, ça nous donne une bonne vision globale. C'est plus intéressant que d'aller voir tout de suite un plan tout fait. Donc, je vous conseille d'essayer. Dans le même ordre d'idée, on peut descendre d'un étage et faire l'étude sommaire d'un chapitre. Alors, pour la petite histoire, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais les chapitres, ce n'était pas à l'origine dans le texte biblique. Ils ont été créés, les 1189 chapitres, en 1228 par l'évêque Stephen Langton. Et donc, ces chapitrages, ils tiennent compte quand même d'une unité historique ou thématique en général. Mais pas toujours. Des fois, on a un même thème qui déborde d'un chapitre à l'autre, ce genre de choses. Mais en général, quand même, il y a une certaine unité. Donc, on peut se concentrer sur un chapitre en lisant, par exemple, 5 fois le chapitre. Ça, c'est la méthode que propose Rick Warren. Puis, appliquer les 10 étapes suivantes. Donc, essayer de trouver un titre. Analyser le contenu principal, quels sont les personnages principaux, trouver un verset clé, trouver un mot-clé même, voir s'il y a des références parallèles, voir si ça nous parle de Christ ou de manière générale de Dieu, si ça ne parle pas de Christ, voir s'il y a une leçon centrale, et puis une conclusion-application. Et ça fait 9, 3 et 3, 6, oui, j'ai mis conclusion et application ensemble, pardon. Donc ça faisait 10. Donc, ne pas oublier l'application. Et je vous propose un petit exercice sur, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Romains 9, qui est un chapitre assez difficile, qui peut faire peur, à mon avis, mais moi qui m'a fait même passer quelques mauvaises nuits. Sur Internet, j'ai commencé à aller sur des sites de débats chrétiens où il y avait pas mal de visions différentes qui s'affrontaient parfois. Et une des visions basait beaucoup d'arguments sur Romains 9 et donc laissait entendre que Dieu aurait prédestiné tous les hommes au salut ou à la perdition, ce qui a été appelé la double prédestination. Calvin avait évoqué ce terme. Et donc moi, ça m'a un peu choqué sur l'image de Dieu que j'en avais. Je me suis dit, il y a des bons chrétiens là qui croient à ça. Alors ça m'étonne. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ce texte de Romains 9 enseigne vraiment cela? Et d'autres textes dans la Bible aussi? Parce que ça me choquait de me dire que de toute éternité, Dieu ait décidé qu'un tel ne serait pas sauvé parce que Dieu ne lui donnerait pas, lui communiquerait pas cette foi et que voilà, il le laissait à son triste sort. Et donc, je pense que j'ai passé quelques années là-dessus et je pense que ce chapitre a en fait été mal compris, mal pris dans son contexte en fait, par plusieurs. Et donc le contexte de Romains 9, 10 et 11, il concerne le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Hein, McDonald's met ses 3 titres sur les 3 chapitres et d'autres sont d'accord avec ça. Le passé, Romains 9, le présent, 10 et 11, l'avenir d'Israël. Donc déjà, on a un contexte, contrairement aux 8 premiers chapitres, qui est vraiment très, très centré sur Israël. Déjà, il était question d'Israël dans d'autres chapitres précédents, mais là, vraiment, on voit les dispensations d'Israël et le plan du salut avec un zoom sur Israël. Il faut réussir à trouver quel est l'objectif de Paul dans le flot du discours. Il y a quelques versets difficiles dans ce texte. Si on les sort du contexte, clairement, on va en arriver à la doctrine que je vous ai dite plus haut. Maintenant, si on regarde l'objectif de Paul, il me semble que tout s'éclaircit. On voit d'abord que les promesses à Israël ne pouvaient échouer. Il est dit en Romains 9, 5, on voit que le Christ devait sortir d'Israël. Donc ce peuple n'était pas choisi pour rien, il était choisi pour être la lumière des nations et le Messie devait sortir de ce peuple. Donc ici, il y a une erreur qui a été faite, c'est de comparer strictement l'élection d'Israël, donc le choix de Dieu d'Israël, souverain, et le choix de chrétien pour être sauvé ou non, l'élection du chrétien. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est purement parallèle? Je ne crois pas. Ici, on parle de l'élection d'Israël. pour un but bien précis, le plan de Dieu du salut pour tous les hommes. Israël s'est endurci à rejeter son propre Messie, mais Dieu s'est servi de ce peuple rebelle, et comme avec Pharaon, il a tourné le mal qu'avait fait Israël en bien pour le salut du monde. Comme Pharaon s'était endurci, Israël s'est endurci, et de cet endurcissement, ils ont crucifié Jésus, et ça a été en bénédiction pour le salut du monde. Et on en arrive à une des principales difficultés, qui est Romains 8, 18, 19. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Certains ont affirmé de là que Dieu fait miséricorde à qui il veut, et bien il choisit quelques élus et il ne sauve pas les autres. Pourquoi le blâmerait-on pour faire ça? Il est bien souverain, on a tous péché, il a bien le droit d'en laisser certains mourir. Mais qui est le contradicteur de Paul au verset 19? En fait, dans toute l'épître aux Romains, il y a un contradicteur fictif. Et ce contradicteur, c'est un juif. Et ce juif, il pense mériter le salut parce qu'il appartient justement au peuple élu. Et il dit, mais Dieu n'a pas le droit de faire miséricorde à ces chiens des nations. Il méprisait les autres nations parce qu'ils se sentaient les élus, le peuple de Dieu. Et donc, quand Dieu leur dit qu'il va aller chercher, appeler des gens qui n'étaient pas son peuple, les appeler son peuple, les Juifs, ils sont outrés, ils disent, c'est pour moi le salut, c'est pas pour les autres. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Dieu fait miséricorde à qui il veut, c'est-à-dire aux nations, et il endurcit qui il veut, les Juifs. Tu me diras pourquoi blâmes-tu encore? Ça, c'est le juif qui se plaint. Donc, il n'est pas du tout ici question de salut individuel qu'il voudrait donner à certains et pas à d'autres. D'ailleurs, on verra même dans les chapitres 10 et 11 que même Israël qui s'est endurci, il n'est pas question de leur salut parce que Paul, il dit qu'il veut mourir pour eux-mêmes, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils peuvent encore, même ceux qui avaient crucifié le Seigneur, qui avaient été endurcis par Dieu pour crucifier le Seigneur. Ils pouvaient encore se repentir et être sauvés. En conclusion, Romains 9 ne décrit pas une restriction du salut à quelques hommes, mais une ouverture du salut à tous ceux qui l'acceptent par la foi. Et en effet, personne ne peut le blâmer pour ce choix souverain d'aimer tous les hommes et de proposer sincèrement son salut à tous. Donc ce chapitre, qui était pour moi très difficile, est devenu un de mes chapitres préférés. Et j'ai même traduit un livre qui parle sur environ 70 pages de ce chapitre, verset par verset. Il s'appelle La promesse du potier de Leighton Flowers. Et c'est un pasteur baptiste qui est un ancien calviniste et qui a changé d'avis sur ces passages. Et c'est un livre que je trouve vraiment très riche. Il y a peu de livres comme ça en français, donc je l'ai traduit. Et il sort justement aujourd'hui aux éditions Viens et Vois, si ça vous intéresse. Il aborde tous ces sujets-là. Voilà, alors là, je vous ai parlé d'un sujet de désaccord particulier entre certains chrétiens. Alors, ce désaccord, il est là. On peut mal le vivre au début. Moi, quand j'ai découvert ça, comme ça me choquait, je me disais, les gens qui pensent ça, ils font un peu de Dieu l'auteur du mal, etc. Et je trouve que c'est très grave. D'un autre côté, ces gens, en fait, ces chrétiens-là, j'ai été forcé de constater que c'était des chrétiens pieux et qui ne voulaient pas faire de Dieu l'auteur du mal, qui ne tiraient pas ces conclusions-là de leur doctrine. Donc, il faut réussir à prendre du recul, à être humble et à être ouvert à l'autre quand ça ne touche pas directement à l'évangile. Eh bien, il faut essayer de prendre un certain recul. C'est ce que propose de faire James Ellie Hutchinson, qui a sorti un livre récemment chez BLF, s'appelle Sacré désaccord. Et donc, dans ce livre, il propose trois catégories de doctrine. Donc, il y aurait les catégories constitutives de l'évangile. Donc, une vérité qui est vraiment, par exemple, Christ est ressuscité. Eh bien, Paul nous dit en 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, si quelqu'un vient vous dire Christ n'est pas ressuscité, c'était un faux-semblant, comme dit le Coran, eh bien là, c'est une hérésie, c'est quelque chose de très grave, ça touche à la foi directement. Et donc, là, il faut tenir ferme. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de doctrines qui peuvent être directement liées à l'évangile. plus ou moins directement. Donc là, c'est là où il y a plus de subjectifs qui rentrent en jeu et tout le monde n'aura pas le même classement. Donc là, il faut voir, il ne faut pas trop exagérer à dire, ah, ça c'est directement lié à l'évangile, quand c'est vraiment assez indirect. Donc là, je ne préfère pas donner d'exemple, que chacun réfléchisse pour soi-même. Et enfin, il y a les doctrines sans lien direct avec l'évangile, où c'est assez clair. Par exemple, ce que Paul évoque concernant celui qui mange, qui est végétarien, celui qui préfère manger de la viande, eh bien, on voit qu'il dit qu'il ne faut surtout pas se diviser pour des questions secondaires comme ça, ou celui qui estime un jour qu'il ne faut pas travailler, alors que l'autre dit que tous les jours sont égaux. Ça, ce sont des questions totalement secondaires. Donc, on ne devrait pas se disputer pour ça, ou se disputer pour savoir s'il y a du jus de raisin dans la Seine, ou s'il faut du pain sans levain, ou voilà. Toutes ces choses-là, c'est totalement indirectement lié à l'évangile. On devrait pouvoir en discuter simplement sans envoyer des anathèmes. Bien sûr, il y a une part de subjectivité là-dedans. Donc, il faut échanger quand même, garder le dialogue ouvert. Aujourd'hui, on a du mal à débattre parfois, de manière générale, ces derniers temps. Les points de vue sont très tranchés. Donc, il faut quand même s'ouvrir à dialoguer avec nos frères qui ne sont pas d'accord avec nous. Ne pas tirer de conclusion à leur place, c'est aussi important. Ne pas oublier qu'on peut se tromper nous-mêmes. Et surtout aussi, ce qui peut être tentant, c'est de baisser les bras. Quand on voit qu'il y a plein d'experts de la Bible ou de grands savants qui ont eu des avis très différents, on peut se dire, bon, bah, c'est peine perdue, j'abandonne tout de suite. C'est dommage de voir les choses comme ça. Et voilà, je vous encourage à creuser davantage la Bible, à vous affermir avec ce qui est clair, parce qu'il y a énormément de choses qui sont très claires et très pratiques pour notre vie quotidienne. Et puis à continuer en tâche de fond, à creuser les difficultés. Et voilà, les choses peuvent s'éclaircir avec le temps. Ensuite, il y a une difficulté qui peut se poser, c'est savoir la portée du désaccord. Est-ce qu'elle permet un travail en commun possible? Par exemple, sur Voiron, là, on a lancé un parcours alpha. Enfin, on n'a pas lancé, on sait. Quelques chrétiens évangéliques de Voiron se sont associés avec le parcours alpha lancé par les catholiques à Voiron. On a vu qu'ils étaient ceux qui organisaient, des laïcs qui organisaient étaient assez évangéliques. Et donc qu'on pouvait avoir quand même pas mal d'accords. Ils nous ont laissé parler, faire les speeches de présentation, notamment sur la croix. On va le faire, donc on va pouvoir bien présenter le message du salut. Et donc, c'était pour ce type d'évangélisation, on s'est dit de toute façon, ça va se faire. Donc, on a réfléchi. On a dit que ça pouvait être que mieux qu'ils entendent l'évangile clairement, les gens qui seront invités. Donc, voilà, c'est toujours pas évident. Il faut réfléchir, prier pour savoir si on peut travailler avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Et je vous laisse ce verset de Proverbe 27-17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Moi, j'aime beaucoup parce que j'aime bien débattre avec des gens qui pensent différemment. Et je pense vraiment que ça nous aiguise l'esprit, que ça nous fait prendre du recul. Et donc, de voir comment les gens réfléchissent en face, ben, on voit des choses qu'on n'avait pas vues aussi. Alors, je bois un petit coup. Maintenant, eh bien, la question des commentaires. Je commence avec cette citation de Kuhn. Prenez votre Bible et du papier et laissez pour commencer tous les autres livres de côté. C'est l'écriture seule qui doit vous parler, d'abord. Les commentaires peuvent être utiles pour conduire plus loin ou pour rectifier. Mais ils ne doivent jamais s'interposer entre Dieu et vous dans ce premier contact avec sa parole. J'avais pas lu qu'une quand je me suis engagé pour le Seigneur vers 16-17 ans. Et Et j'ai eu à cœur de faire cette méthode quand même. C'est certainement Dieu qui m'a poussé à le faire, d'essayer de ne pas lire de commentaires et de me faire mon propre avis en lisant la Bible tous les jours, ce que je ne faisais pas avant. Et j'ai trouvé ça très riche, ça m'a béni de lire la Bible comme ça, d'un bout à l'autre. Alors il y avait des passages qui étaient arides pour moi, que je ne comprenais pas trop. Dans les Lamentations de Jérémie ou autres, bon, je me mettais à lire vite, hein, et je comprenais pas grand-chose. Mais au moins, j'avais lu au global et j'avais une vision au global. Je l'ai lu 3, 4 fois comme ça. Et après, plus tard, je me suis mis à regarder des commentaires pour mieux comprendre dans le détail. Mais déjà, quand on lit comme ça, eh ben, on trouve beaucoup de trésors et on donne une vision plus globale. Et puis, il faut compter sur le Saint-Esprit. Où Jésus qui ici nous avait ouvert l'intelligence des disciples d'Emmaüs pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc on a besoin de l'aide de Dieu. Donc les commentaires, c'est utile, mais ne perdons pas le contact direct avec la parole. Maintenant, on va essayer de balayer les genres littéraires principaux qu'on trouve dans la Bible et d'avoir les quelques clés d'interprétation particulières à chacun de ces styles littéraires. Alors c'est important pour pas faire de contresens, de bien prendre en compte ça. On va en voir 6 styles littéraires. Je vais pas trop traîner. Voilà. Ça, c'est une bonne synthèse qui était en grande partie reprise du cours de l'IBG. La parabole, d'abord, c'est pas un genre si facile, hein. Il faut d'abord trouver le contexte de la parabole et la comparaison principale. C'est comme si dans chaque parabole, il y avait une perle et qu'il faut trouver cette perle. Parce que souvent, quand Jésus explique la parabole, on voit qu'il avait une idée en tête. Et il y a eu beaucoup d'hérésies qui ont été faites en interprétant les paraboles n'importe comment. Et en prenant chaque élément de la parabole, en lui donnant une signification, en extrapolant de trop. Donc, attention avec les paraboles. Par exemple, il y a une des paraboles où on voit un intendant qui est malhonnête avec l'argent de son maître, et Jésus semble le louer à la fin. Mais en fait, il loue pas la malhonnêteté du personnage, mais il a fait un parallèle avec les chrétiens en leur disant qu'ils doivent s'inspirer des gens du monde qui savent où mettre leurs billes et ils sont intelligents avec ce qu'ils ont comme ressources. Et bien nous, en tant que chrétiens, on doit être intelligents avec les ressources que Dieu nous donne. On doit les placer dans le ciel et on doit être tourné les yeux vers le ciel pour pas faire des choses futiles. Donc, chercher la vérité centrale. Concernant les récits historiques narratifs, eh bien, il faut faire attention à pas faire de doctrine à partir d'un récit historique. Certains vont dire, pour critiquer la Bible, ah, ben la Bible, c'est un récit, enfin, il n'y a que des gens qui se font tuer tout le temps, etc. Ce n'est pas parce qu'il y a des récits de bataille, des récits choquants, que Dieu approuve les choses qui sont données dans ces récits. Donc, ce n'est pas la norme ni l'exemple à suivre. Par contre, si un récit historique est normatif, eh bien, son action, elle doit être enseignée ailleurs. Donc, on va trouver dans le Nouveau Testament, par exemple, dans les lettres ou les évangiles, si c'est enseigné là, eh bien, OK, on peut prendre un récit historique qui dit cette chose comme normative. Dans tous les cas, par contre, ces écrits historiques ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour notre enseignement personnel, notre édification, on aime bien qu'on nous raconte des histoires, nous, les humains. Et du coup, ça nous touche, de voir des hommes qui pêchent, de voir comment ils se repentent, comment ils se retournent vers Dieu. Donc ça peut nous servir d'illustration dans tous les cas. Et c'est enrichissant pour nous. Ensuite, il y a la prophétie. La prophétie, eh bien, là, il y a beaucoup de divergences dans différents courants chrétiens. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'amillénarisme, qui est une doctrine très à la mode chez les évangéliques et qui dit que, il n'y aura pas de millénium littéral et qui interprète toutes les prophéties concernant Israël comme si l'Église avait remplacé Israël. Il s'appuie sur peu de versets. Il y a un verset qui est un petit peu ambigu dans le Nouveau Testament à ce sujet, mais il n'y a pas grand-chose pour s'appuyer là-dessus, mais il spiritualise Israël. Il pense que Israël, c'est totalement fini. Alors qu'en Romains 10 et 11, on voit que les promesses de Dieu et l'élection de Dieu est irrévocable et que le peuple élu, il y aura un reste qui se retournera vers le Seigneur à la fin des temps. Donc nous pensons qu'il est important de continuer d'utiliser la même méthode d'interprétation, qui est la méthode historico-grammaticale, c'est-à-dire qu'on prend toujours le contexte, la grammaire, et c'est le sens normal le plus simple de l'auteur qu'on essaie de trouver. Est-ce que l'auteur, quand il faisait une prophétie sur Israël, il pensait à l'Église? On ne pense pas. On pense qu'il pensait simplement à Israël. Donc ne spiritualisons pas les prophéties qui auront un accomplissement littéral. Cela implique de différencier l'Église et Israël. Ensuite, il faut savoir déterminer si le langage est littéral ou figuré. Puisque ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a une méthode d'interprétation littérale que quand il y a une image, on ne la prend pas en compte. Il y a beaucoup de figures de style dans la Bible. Philippe Juston nous en a rappelé la dernière fois des anthropomorphismes sur Dieu. Quand Dieu, il est parlé de sa main, de son bras, de son visage, on sait bien que Dieu n'a pas de bras, de main ou de visage. Donc c'est du figuré. Mais on comprend les idées que ça veut faire passer. Ensuite, il y a des cas difficiles où on peut avoir plusieurs accomplissements d'une même prophétie. Des accomplissements partiels et un accomplissement total. Par exemple, pour Ésaïe 7,14, à propos de la jeune fille ou de la vierge qui sera enceinte, ça a été réalisé du temps d'Ésaïe en partie, et ça a été aussi réalisé, bien sûr, en Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre. Enfin, un point important, c'est est-ce que le Nouveau Testament commente cette prophétie en question? Si oui, ça va beaucoup nous aider à l'interpréter correctement. Maintenant, il y a la loi. Et ce qu'on peut dire d'abord, c'est en prenant en compte la révélation progressive, je vous renvoie vers le bon livre de Gilles Despin sur le plan de Dieu pour Israël et l'Église, où il montre bien les différentes alliances et la révélation progressive de la Bible. Eh bien, nous ne sommes plus sous la loi, puisque nous sommes passés dans la période de la grâce depuis la venue de Jésus, son sacrifice à la croix. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des passages législatifs de l'Ancien Testament? Eh bien, il y a une tradition chrétienne qui a trouvé dans la loi une répartition tripartite, certains disent, qui est intéressante, je trouve, où on pourrait trouver une loi morale qui concerne l'éthique et qui est donc de tout temps valable. Puis il y avait une loi civile qui était sociale et qui était à destination des Juifs, et une loi cérémonielle, religieuse, avec beaucoup de symboles qui peuvent nous parler aujourd'hui, mais qui était pour les Juifs à la base. Donc les lois morales, elles s'imposent aux chrétiens si le Nouveau Testament répète ou explique une loi. C'est ça que les 10 commandements, ils sont tous répétés dans le Nouveau Testament, sauf le commandement concernant le sabbat. Puisque, en tant que chrétien, on peut dire qu'on a un sabbat qui est permanent, notre repos est en Christ. Et ensuite, certaines lois, en revanche, elles peuvent servir de principe fondamental, sans suivre la loi exactement, ou d'illustration. Je pense par exemple à Paul qui va citer ce verset qui dit que le bœuf ne foulera pas sans recevoir à manger, hein. Il doit recevoir à manger. Eh bien, il le cite pour dire que quelqu'un comme lui, qui prêche l'évangile, eh bien, il doit mériter son salaire aussi, et on doit lui en avoir de la reconnaissance et pouvoir lui donner à manger, l'aider matériellement. On arrive bientôt au bout. Il en reste deux, donc l'épître et la poésie. Donc l'épître, ou la lettre, hein, ça veut dire pareil. Eh bien, il faut déterminer le but, puisque la lettre, elle a été écrite dans un contexte particulier, à destination de gens en particulier, qui avaient des problèmes particuliers à résoudre. Et donc, nous devons essayer de trouver l'idée principale et l'argument fort de l'épître. Bon, il peut y en avoir plusieurs, mais voilà, de voir le flot de l'épître. C'est des lettres de circonstance, donc il faut bien prendre en compte le contexte, même si on arrive à trouver dans ces lettres la plupart des enseignements sont permanents. Même s'il faut parfois transposer, comme l'exemple des viandes sacrifiées aux idoles, bon, ben, on fait plus trop de sacrifices aux idoles avec des viandes, mais on peut en déduire un principe général de pas choquer son frère par certaines choses, par plaisir de choquer. Et enfin, il y a la poésie. Alors la poésie, pareil, il faut trouver le but et le message du poème en tenant compte du contexte. Est-ce qu'il y a des parallélismes? Il faut étudier un petit peu les différentes formes de figures de style. Dans la poésie hébraïque, il y a beaucoup de synonymes, de versets qui sont synonymiques ou antithétiques. Donc on va dire le méchant est comme ci, le juste est comme ça, c'est antithétique. Ou synonymique, le méchant est comme ci et le méchant fait comme ça. Donc ça accentue les idées quand c'est synonymique. Donc ça fait passer les choses de manière plus forte. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour très rapide de ces différents styles, mais avec les principales clés à se rappeler pour ne pas faire de hors-sujet. Et à propos de poésie, je voulais vous montrer la force que ça pouvait avoir avec quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je ne l'ai pas trouvé tout seul, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a des juifs qui se sont convertis au christianisme et qui utilisent ce genre d'arguments pour essayer de toucher des juifs qui ne croient pas en Jésus. Alors en fait, sur le psaume 22, il y a dans les versions juives de la Bible le mot percer qui nous fait penser à la croix. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils le traduisent par comme un lion, mes mains et mes pieds. Et ils sont obligés de rajouter un verbe parce que dans la phrase, il n'y a pas de verbe. Donc ils mettent comme un lion, ils ont tapé sur ou ils ont abîmé mes mains et mes pieds. Ils choisissent le verbe qu'ils veulent selon la traduction. Pourquoi ils font ça? Parce que les deux mots percé ou comme un lion, en hébreu, ça se joue à rien, ça se joue à un trait de lettre. Alors eux, ça les arrange de ne pas avoir percé, on va dire, et ils disent que nous, on a trafiqué pour avoir mis percé pour que ça colle avec Jésus. Alors il y a pas mal d'arguments contre ça, et il y en a un qui est très beau, je trouve, c'est de voir qu'il y a un chiasme dans ce psaume. Et il y a des rabbins qui l'ont reconnu que ce chiasme ne fonctionnait pas avec leur traduction. Et avec notre traduction, il fonctionne. Donc je ne lis pas tout le texte, mais vous voyez qu'il y a une référence au taureau en rouge qui est parallèle avec les buffles. Parce qu'un chiasme, la définition, c'est qu'en gros, l'idée centrale se retrouve au milieu et on a des parallélismes. Certains appellent ça la figure de style sandwich, avec le pain qui répond au pain, la salade avec la salade et la viande au milieu. Donc ici, les deux morceaux de pain, c'est le taureau et les buffles, c'est la même chose. Puis entre les deux, il y a le lion en vert et le lion en bas qui reviennent. Puis il y a le chien du verset 16 qui va avec le chien du verset 20. Et ensuite, on a le mot percé qui va avec le mot épée. Alors ça semble très bien. Si on met comme un lion à la place de percer, eh ben on se retrouve avec deux lions dans le chiasme et ça ne colle pas avec épée. Donc c'est un argument de plus pour cette traduction de percer mes mains et mes pieds, sachant qu'en plus cette phrase a besoin d'un verbe et que eux ils n'ont pas de verbe. Donc c'est bien certain, c'est percer qui est le bon mot. On approche du bout de cette présentation. Je voulais faire la petite pub d'un livre qui s'appelle La méditation biblique à l'ère numérique. C'est tout petit et ça encourage à méditer dans ce monde qui va très vite. et où on est toujours la tête derrière les écrans, moi le premier. C'est vraiment un challenge de méditer, de prendre un moment face à sa vie pour essayer de la comprendre, pour la méditer calmement. Donc, vous avez ici quelques conseils pour se renouveler, pour se donner envie de méditer la parole. En particulier, on peut aussi de temps en temps écouter des prédications, échanger avec d'autres à propos de l'écriture, se prêcher la Bible à soi-même. Voilà. Vous aurez la présentation et voilà, vous pouvez aussi acheter ce petit livre intéressant. Romains 15, 4 nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, les Écritures nous donnent du réconfort aussi. Donc, et elles nous apportent de l'espérance. Et on en a bien besoin. Pour conclure, avant que je vous présente quelques outils, en fin de présentation, nous avions plusieurs questions au début de la présentation. On a essayé d'y répondre au cours de la présentation. Je vais les remettre ici. Et essayer d'y répondre en quelques mots pour essayer de fixer les idées. Donc, un sens ou plusieurs, eh bien, il y a une seule vérité communiquée par les auteurs bibliques. La tradition et les commentaires bibliques sont utiles, mais ne doivent pas entraver notre contact direct avec la Bible. Il y a bien des contradictions apparentes dans la Bible, il y a des choses difficiles, mais une bonne prise en compte du contexte et le fait de savoir que la Bible est fiable et la parole de Dieu, eh bien, ça nous convainc que ces contradictions ne sont qu'apparentes et on arrive à résoudre vraiment la plupart. Et puis pour celles qu'on n'arrive pas à comprendre encore, eh bien, on peut continuer de creuser, ne pas baisser les bras et voilà, aller vers des outils qui nous aident. Comment interpréter correctement la Bible? Eh bien, il faut avoir une vision globale, se poser beaucoup de questions, se poser les bonnes questions et prendre en compte la révélation progressive et le style littéraire de chaque texte. Il y aura toujours des interprétations différentes parce qu'on a des faiblesses, parce que on n'est pas assez à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas toujours, pas tous le même cerveau, pas tous voilà, les mêmes biais. Donc, il y a des interprétations différentes. Sur l'évangile, on doit être carré. Ça, c'est du non négociable. Et après, on doit être ouvert à la discussion pour apprendre les uns des autres. Et donc, toutes les erreurs doctrinales ne sont pas aussi graves. On a essayé de montrer qu'on pouvait essayer de les classer pour prendre un peu de recul là-dessus et ne pas s'affronter à la moindre divergence sur un détail. Je vous présente maintenant quelques outils d'étude. Moi, j'aime beaucoup le Biblia Universalis 3, puisqu'il est devenu totalement gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement, donc c'est appréciable. Et le contenu ne cesse d'être étendu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dedans. Vous avez la Bible Online qui est pas mal sur téléphone, sur tablette. Elle est aussi gratuite sur téléphone, avec par exemple le commentaire biblique de McDonald's dedans. C'est sympa, et les mots strong. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, Logos Bible Software, c'est le plus élaboré, le plus complet, et il est payant. On vous conseille aussi le manuel du prédicateur de Florent Varac, l'introduction à l'herméneutique et à la méthode d'étude biblique. L'herméneutique, hein, tout simplement, je l'ai dit une ou deux fois, mais c'est l'interprétation de la Bible, la science de l'interprétation. Pour avoir un gros livre qui traite de toutes les doctrines bibliques, on vous conseille la théologie systématique de MacArthur qui a été traduite récemment en français. Même si on trouve jamais une théologie systématique sur laquelle on est peut-être d'accord avec tous les points, mais voilà, celle-ci est déjà très intéressante. Et puis après, vous avez tout un tas de ressources sur Internet. Promesse, je suis un petit peu jugé parti là-dessus. Mais il y a aussi plein d'autres bons sites, Tout pour sa gloire et autres. Et puis on peut discuter avec nos frères et sœurs chrétiens, c'est important. Et ici, je vous ai mis les ressources que j'ai utilisées pour cette présentation, avec le livre La promesse du potier qui sort aujourd'hui. Voilà, j'arrête le partage et s'il y a des questions.
Merci Sylvain pour cette présentation. Effectivement, il y a des questions. Les rabbins voyaient quatre niveaux d'interprétation dans la Torah, le paradès, lecture littérale, remèse allégorique, drache homilétique et sode mystique. Saint Augustin parlait aussi de quatre niveaux, littéral, allégorique, moral et anagogique. As-tu une idée sur ces points?
Moi, je suis pas contre, il y a certainement une part de vérité là-dedans, mais je pense que ce que je voulais accentuer aujourd'hui, c'est qu'il y avait quand même un sens principal qui est clair, qui est non masqué, qui a voulu être communiqué par les auteurs inspirés. Ensuite, on peut trouver des allégories, trouver des images. Certaines sont claires et données par l'apôtre. Quand il parle, il y a eu deux peuples dans le ventre. L'apôtre Paul, voilà, il donne des images sur des histoires qui se sont réellement passées. Il rajoute une couche, il montre le sens qu'avaient aussi ces histoires qui se sont vraiment passées. Mais attention à pas vouloir trop vite allégoriser les textes et à dire que puisqu'on a trouvé une allégorie, le sens premier du texte serait faux ou perdrait son sens. Par exemple, on peut citer un petit point de désaccord avec Alfred Kuhn. Lui pense que, dans un des livres que j'ai mis en ressources d'ailleurs, que le temple d'Ézéchiel, en Ézéchiel 40 à 48, il pense que c'est une allégorie du temple qui est l'église dans le futur, donc qui est le Seigneur ou de la Jérusalem céleste, et que ce n'est pas un temple qui va être reconstruit physiquement. Alors que nous, on pense qu'il y a peut-être des images dans ce texte, mais que s'il y a sept chapitres qui nous décrivent un temple avec les vestibules, toute sa géométrie et un temple qu'on peut dessiner, on estime que ce temple risque d'être reconstruit, comme la prophétie le dit, durant le millénium. Donc attention à la tendance de trop vite extrapoler les textes pour minimiser leur sens premier.
Merci pour cette réponse. Tu as parlé aussi de la loi. On a une question à ce sujet. Si le chrétien n'est pas sous la loi, peut-il donner aussi la dîme?
Alors, la dîme, c'est un sujet un peu compliqué parce qu'il y a pas mal d'églises qui l'encouragent plus ou moins ouvertement. Je pense qu'il faut faire quand même attention puisqu'on n'est plus sous la loi, donc non, on n'est plus sous la dîme. Mais d'un autre côté, on voit que la dîme, elle était même antérieure à la loi puisque Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek, qui était une figure du Christ. Donc, c'est un principe qui est un peu antérieur. Et qui en tout cas nous parle de donner le meilleur de nos premiers fruits, de notre premier salaire, une part importante à Dieu. Je dirais aussi que Jésus nous a encouragés dans le sermon sur la montagne à faire mieux que les pharisiens qui donnaient la dîme de tout. Donc, certains iraient même jusqu'à dire que ce serait un minimum la dîme. Moi, je ne veux pas le dire comme ça. Mais en attendant, je pense que le chrétien ne doit pas réfléchir comme ça. Ananias et Saphira ont été punis parce qu'ils ont voulu donner pour impressionner. C'est pas comme ça que Dieu il veut qu'on donne. Il veut que ça vienne de notre cœur. Et alors, on va mettre à part quelque chose qui vient de notre cœur et on va le donner à Dieu. Et peut-être qu'il va nous encourager par sa parole à lui donner plus selon nos besoins, selon nos ressources.
Merci. Encore une question. Donc, on est des fois dans des cas de situation où notre interprétation diffère de celle d'un frère ou d'une sœur. Et puis, on se trouve dans une situation où personne ne veut adhérer à l'interprétation de l'autre. Alors là, se pose la question, est-ce refuser d'évoluer dans la foi ou est-ce être ferme d'esprit.
Voilà, après, on peut se juger que personnellement, je trouve que de toute façon, on ne peut pas forcer les gens à changer d'avis. Donc, si on commence à vouloir échanger, moi, je l'ai eu fait à une époque, hein, j'étais très sûr sur certains points, et puis ça peut m'arriver encore voilà, de vouloir convaincre à tout prix, parce qu'on aime bien le débat, on aime bien convaincre. Mais ce n'est pas nous qui convaincrons. Si on est plus ouvert à la discussion et plus à essayer de comprendre l'autre, déjà l'autre, il sera aussi moins sur la défensive pour pouvoir entendre ce qu'on a à lui dire. Ça, c'est important, la forme déjà. Et si les deux restent sur leur position, eh bien, si ça ne touche pas à l'évangile, comme on l'a dit précédemment, s'il n'est pas en train de nier que le Christ est ressuscité ou qu'il est mort sur la croix, ou des choses, ou qu'il s'est incarné, ou la Trinité. Eh bien, si on n'en est pas là, sur des points si graves, eh bien, on peut garder la relation et essayer de s'apprécier voilà, sans se jeter des anathèmes.
Merci Sylvain, on arrive au terme de cette session. Je vais redonner la parole à Claude Michel qui va conclure cette soirée.
Voilà, alors, je vous reprends. Et pour conclure cette soirée, j'ai juste à cœur un verset que Sylvain a souligné ce soir. Il m'a touché aussi particulièrement. C'est le faire aiguise le fer. Et puis, si on est par Zoom, on ne se voit pas. Mais je pense qu'on peut arriver quand même à s'aiguiser les uns les autres. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'interprétation de la parole. C'était le thème de ce soir. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que peut-être parmi les personnes qui suivent le Zoom maintenant avec nous, eh ben concrètement, on n'a pas, enfin, ils n'ont pas cette parole. Et là où on peut s'encourager, c'est qu'avec le même amour qu'on pourrait avoir à rechercher physiquement cette parole ou une partie de la parole, eh bien, pour des personnes qui n'auraient pas accès, pour les autres personnes qui, comme moi, ont la grâce d'avoir accès à cette parole, eh bien, avec le même amour, on devrait rechercher. Ça ne s'arrête pas juste à avoir la Bible, mais d'aller rechercher encore plus. Et ça montre vraiment le cœur, en fait. Qu'est-ce qui bat? Qu'est-ce qui vit en nous? Qu'est-ce qu'on veut rechercher? Et j'ai à cœur qu'on reste, enfin, qu'on ressorte aussi ça. Vraiment, notre cœur, où est-il dans cette interprétation? Qui c'est qu'on recherche? Alors, je vous propose qu'on prie ensemble. Oui, mon Dieu, moi, j'aimerais te louer pour ce moment qu'on a pu passer ensemble, où que nous soyons sur cette terre. Je te remercie pour la disponibilité de Sylvain, de son cœur de service, de te servir. Je te prie que ton esprit continue ce travail dans notre cœur. Je te prie pour qu'on puisse rechercher physiquement ta parole pour ceux qui ne l'ont pas, qui puissent trouver même ne serait-ce que des petits bouts de ta parole pour pouvoir lire de cette parole même. Et je te prie que pour nous qui sommes au bénéfice de cette parole, eh bien, on puisse te rechercher avec la même ferveur et qu'on puisse vraiment. Non, qu'on te recherche vraiment avec cette même ferveur et qu'ensemble on puisse s'approcher de toi et apprendre à mieux te connaître pour te louer encore plus parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu rempli d'amour qui nous a sauvés par ta grâce en Jésus-Christ. Alors sois loué, mon Dieu, et bénis chacune des personnes qui a pu suivre ce Zoom, suivre cette prédication et bénis aussi particulièrement Sylvain. On te remet toutes choses pour la suite. Et gloire à toi. Amen.